5, 4, 3, 2, 1.
Et voilà qu'arrive l'équipe de Lilith Martinez sur la piste d'atterrissage.
Et oui, mais oui, mais quel moment incroyable!
Ça fait 10 ans qu'elles prennent les ondes hertziennes.
Elles nous arrivent tout droit de Radio Canu.
Toute la galaxie qui ne capte pas le 102.2. Enfin, vous pouvez les écouter sur nos ondes!
Lilith, Lilith, réveille-toi là. Lilith, c'est 17h. Lilith, c'est 17h. C'est l'émission féministe. Faut qu'on prenne le micro.
Nous voulons l'autodétermination pour les Portoricains, la libération sur l'île et aux États-Unis.
Nous voulons l'autodétermination pour tous les Latinos.
Nous voulons la libération de tous les peuples du tiers-monde.
Nous sommes des nationalistes révolutionnaires et nous sommes contre le racisme. Nous voulons l'égalité pour les femmes, abat le machisme et le patriarcat.
Nous demandons le contrôle par la communauté de nos institutions et de nos terres.
Nous voulons un vrai enseignement de notre culture afro-indienne et de notre langue espagnole.
Nous sommes contre les capitalistes et les alliances avec les traîtres.
Nous sommes contre l'armée américaine.
Nous voulons la liberté pour tous les prisonniers politiques et les prisonniers de guerre.
Nous sommes internationalistes.
Nous croyons que l'autodéfense armée et que la lutte armée sont les seuls instruments de la libération.
Nous voulons une société socialiste.
This is louder than usual. Your organ is louder than it is at the gate. Just kind of leave it grooving by itself. Let it groove on its own thing, you know? Then when it gets in it, then you can put in some fills. But don't do it at the beginning. It's holding it back. Can we start again?
En octobre 1969, un groupe de jeunes New-Yorkais d'origine portoricaine présente leur programme en 13 points. Ils s'identifient comme un parti politique révolutionnaire inspiré des Black Panthers et ils se nomment les Young Lords. En avril 2018, Lilith Martin et les autres rencontrent Claire Richard qui a enquêté sur ces jeunes révolutionnaires et écrit un livre consacré à leur histoire.
Now we got a revolution, 'cause I see the face of things to come.
J'avais lu une histoire des Black Panthers qui est aux éditions de l'Échappée, il y a assez longtemps. Et j'avais été intriguée par une note de bas de page qui mentionnait la Rainbow Alliance, qui était une alliance à Chicago entre donc, les Black Panthers, mais aussi plusieurs autres groupes, des groupes de blancs des Appalaches qui s'appelaient les Young Patriots, ces fameux Young Lords, et des Chicanos qui s'appellent les Brown Berets. Et je me souviens, m'a dit, mystère, qui sont ces gens? Et ensuite, j'ai habité aux États-Unis plusieurs années à New York. Et je travaillais sur un sujet qui n'avait rien à voir, qui était autour, en gros, de lutte de quartier, autour de l'éducation, avec, en fond, la lutte contre la gentrification du nord de Brooklyn, qui était un quartier vraiment historiquement plutôt dominicain, mais aussi portoricain. Et j'ai rencontré un responsable associatif. Et en préparant l'interview, je m'étais aperçue, en lisant son site, que c'était un ancien Young Lords. Donc je lui ai posé la question à la fin de mon entretien, qui portait donc sur les écoles et tout. Et il s'est illuminé vraiment son visage, a fait « Oui, yes, je suis un ancien Young Lord ». Et de là, j'ai remonté en fait cette histoire. Et c'était aussi parce que habitant à New York, comme il y a pas mal d'anciens fondateurs qui sont dans la région, soit à New York même, soit upstate New York, en haut de l'état de New York, c'était facile de les contacter. Voilà, donc j'ai commencé à faire une série d'articles pour des petits journaux de gauche, un magazine qui s'appelait Le Tigre, qui était vachement bien. Voilà, et petit à petit, j'ai fait des enquêtes de plus en plus longues et j'ai proposé l'idée de faire un bouquin aux éditions de l'Échappée.
New York Times, 19 août 1969. Hier, devant des immeubles décrépits, une HLM et les voies ferrées de Penn Central qui ramènent les habitants des banlieues chez eux après le travail, un homme en béret violet a expliqué pourquoi son groupe, l'organisation des Young Lords, avait déversé des ordures en signe de protestation dans les rues dimanche dernier. Le groupe des Young Lords a déclaré qu'ils avaient agi pour montrer au peuple d'El Barrio, le bidonville portoricain d'East Harlem, que des actions de ce type étaient nécessaires pour que la mairie réponde aux besoins de la communauté. Le porte-parole du groupe, qui se fait appeler simplement Yoruba, a déclaré « La violence pour la violence ne nous intéresse pas et nous ne cherchons pas à déverser des poubelles dans la rue. Mais si nous nous heurtons toujours à la bureaucratie, si la mairie ne fait jamais rien, alors nous n'avons pas le choix. » Le jeune homme, qui a refusé de donner son véritable nom par peur d'être harcelé par la police, a déclaré que les Young Lords étaient une association latino-américaine qui était née comme un gang de rue à Chicago et constituait maintenant dans plusieurs villes des groupes sur le modèle des Black Panthers. Les Lords entendent unir les Américains hispanophones pour mettre fin à l'oppression dont ils sont victimes.
Alors moi, ce qui m'a particulièrement intéressée, c'est toutes les luttes communautaires, en fait. Donc, je les ai décrits comme des nationalistes révolutionnaires, c'est-à-dire que, en gros, eux, ils militent très fort pour l'indépendance de Porto Rico, mais avec l'idée aussi de, aux États-Unis, améliorer, en gros, les conditions de vie, les conditions d'existence de leur communauté, à savoir les Portoricains. Et donc, ça se traduit par plein d'actions hyper concrètes, d'actions directes qui confinent à l'autogestion, leur philosophie est moins l'autogestion elle-même que l'idée de créer des alternatives, mais aussi de forcer la mairie à faire son boulot. Donc c'est pas non plus complètement une perspective vraiment complètement autogestionnaire et tout ça. Et en fait, ces actions-là, moi, c'est ça qui m'a particulièrement parlé, et surtout les questions autour de la santé. Les quartiers où ils étaient actifs, donc notamment East Harlem dans Manhattan, c'est un quartier qui était dans un état vraiment catastrophique, hyper délabré, avec des conditions de... Enfin, plein d'appartements insalubres et tout ça, et donc des conditions sanitaires catastrophiques. Avec plein de... Enfin, vraiment, il y a des témoignages dans le livre d'une jeune... Enfin, qui est plus jeune aujourd'hui, mais quand elle arrive, elle a une vingtaine d'années, elle arrive de Philadelphie, et elle dit, mais pour être bénévole dans des programmes fédéraux, justement, d'aide à la pauvreté, machin, et elle dit, mais j'avais jamais vu ça. C'est vraiment des conditions de vie du tiers-monde, et je savais pas que ça existait aux États-Unis. Et donc, il y a plein de problèmes sanitaires, de tuberculose, de saturnisme, de toxicomanie, et ils vont... les Young Lords, avec d'autres militants aussi, notamment les Black Panthers de ces quartiers, faire des actions vraiment autour de la santé. Et donc ça va être des campagnes de dépistage sauvage, parce qu'une grande partie de la communauté ne se rend plus dans les hôpitaux qui sont, pareil, vétustes, dégueulasses, qui sont, et où ils sont aussi traités vraiment comme des citoyens de seconde zone. Donc la façon dont ils sont traités aussi incarne le système de discrimination un peu général dans lequel les Portoricains vivent, qu'à la fois racisme, classiste, etc. Et donc, ils créent en gros des alternatives, quoi. Ils vont faire des programmes de dépistage du saturnisme parce qu'il y a un gros problème de saturnisme dans la communauté, mais que c'est pas détecté puisque les gens ont cessé de se rendre à l'hôpital dans bien des cas. Même chose pour la tuberculose. En gros, l'idée de ces actions-là, c'est que ça s'inscrit dans un mouvement que j'ai découvert à l'occasion de Santé Radicale aux États-Unis dans les années 60. Et c'est vraiment ces idées-là, quoi, que faut déprofessionnaliser la médecine, qu'il doit y avoir des échanges de compétences entre les experts et les non-experts, et que les communautés, quoi, les gens qui sont les premiers concernés, doivent avoir une place prépondérante ou centrale dans le contrôle des institutions de santé et aussi dans la conception même des soins et la façon de les donner, quoi. Et ça, c'est vrai que je trouve moi j'ai trouvé ça extrêmement puissant comme idée. Et en fait, j'avais pas forcément fait le lien, parce que bien sûr, ça existe dans le féminisme de ces années-là aussi, la question de la prise en main du savoir médical, de la réappropriation des savoirs médicaux, de l'auto-avortement, de ces choses, des choses comme ça. Ouais, en fait, c'était un pan de l'action de ces mouvements-là nationalistes que je connaissais peu. Et parce qu'aussi, à l'occasion, j'ai découvert que ça a été un pan très important aussi de l'action des Black Panthers, pour le coup. Avec des programmes de petit-déjeuner gratuits, des cliniques de santé qu'ils organisaient dans plusieurs quartiers et qui servaient, c'est vraiment une espèce de pensée globale de la santé, quoi, qui servent à la fois de dispensaire de soins basiques et aussi d'endroits un peu d'aide sociale où les gens peuvent recevoir une aide juridique, etc. Et ce qui forme les bases de la santé communautaire aujourd'hui.
New York Times, 30 décembre 1969. les Young Lords offrent soins et nourriture dans une église occupée. Un panneau de bois avec des lettres rouges pendait d'une fenêtre du deuxième étage, annonçant que l'édifice était désormais la Iglesia de la Gente, l'église du peuple. Des vigiles courtois montaient la garde devant une porte de côté de l'église et demandaient aux visiteurs de décliner leur identité et de signer un registre avant d'entrer. Nombreux sont ceux qui ont été admis dans l'église toute la journée, mais tous les étrangers étaient soigneusement fouillés à l'entrée pour vérifier qu'ils n'avaient sur eux ni armes ni stupéfiants. Ce matin, un groupe d'environ 75 enfants chantait « Tout le pouvoir au peuple » pendant qu'on leur servait des jus de fruits, des gâteaux et du lait avant d'assister à un cours d'histoire sur l'Amérique latine, donné par un Young Lords. Un porte-parole a indiqué que plusieurs médecins et infirmières recrutés dans les hôpitaux voisins avaient examiné les enfants et leur avaient fait un test de dépistage pour la tuberculose et le saturnisme dans le cadre d'un programme médical.
Même s'il y a eu beaucoup de membres femmes chez les Black Panthers, vraiment beaucoup, et que justement sur ces programmes, ce que les Panthères appelaient les programmes de survie, donc toutes ces choses qu'il fallait faire en urgence, en fait, créer dans les quartiers, puisque l'État ne le faisait pas, donc les crèches, les petits déjeuners gratuits, les cours d'éducation, etc. Bon, éducation politique / propagande selon le point de vue qu'on veut adopter, mais les trucs de santé, donc ça, beaucoup de femmes étaient présentes vraiment dans la vie quotidienne des Panthères, il y avait plein de femmes fortes, etc., et puissantes. Mais le parti des Black Panthers n'a jamais été explicitement féministe, même s'il y a des textes de Cleaver qui, à un moment, disent qu'il faut donner la même place aux femmes qu'aux hommes dans la lutte, etc. Et les femmes accèdent à des rôles de dirigeants parce que les hommes sont en prison ou morts ou en exil. Et la différence avec les Young Lords, c'est qu'effectivement, ils vont être, à la suite des actions des membres féminines du parti, un parti explicitement féministe. Alors je pense que ça tient aussi au fait qu'ils étaient moins nombreux, quand même, que les Panthères, et que donc les femmes, quelques femmes, ont pu jouer un rôle très fort dans le fait de transformer le parti en parti féministe. Parce que à sa création, donc en 69, il est créé par un groupe d'hommes, et la forme du parti, elle reproduit plutôt celle des Black Panthers, donc c'est-à-dire une forme extrêmement pyramidale, quoi. Il y a un comité central qui n'est pas du tout élu, qui choisit lui-même quel membre le rejoigne, donc il n'y a pas vraiment d'horizontalisme ou d'aspect démocratique là-dedans. Et donc ça, c'est la structure de base, il n'y a que des hommes dans le comité central. Mais il y a plusieurs femmes qui rejoignent assez tôt le mouvement, soit parce qu'elles ont suivi. Elles viennent, il y en a beaucoup qui n'ont pas forcément d'expérience politique, qui sont très jeunes, qui viennent avec leurs compagnons. Et il y en a d'autres, comme deux figures, notamment Denise Oliver, que j'ai longuement rencontrée, interviewée, qui est fantastique, vraiment, à mille égards. Et Iris Morales, par exemple. Et là, c'est deux femmes qui ont déjà une expérience politique, pour le coup. Denise Oliver, elle est afro-américaine. Elle vient d'une famille où il y a une tradition politique longue. Elle raconte qu'elle a commencé à militer à 12 ans dans des groupes de droits civiques, etc. Donc, ça l'impressionne pas du tout, en fait, les Young Lords, ça prouve pas son baptême du feu politique. Iris Morales, elle est partie à 15 ans de chez elle pour faire de la politique. Dès 15 ans, elle essaye d'organiser les locataires de son immeuble pour faire une grève des loyers, etc. Et donc je pense que ça tient aussi, le fait qu'ils soient pas beaucoup, à la force de personnalité comme ces femmes-là. Et donc au début, elle découvre très tôt que le comité central est machiste. Et attend plutôt des femmes comme elle, qu'elles tapent les rapports, qu'elles fassent le café, qu'elles gardent les gamins, etc. Donc là, évidemment, ça les intéresse pas le moins du monde. Donc, elles décident de créer, enfin, elles obtiennent la création d'une commission des femmes, un Women's Caucus, qui va être l'équivalent d'un groupe de parole non mixte, en gros. Et il faut quand même rappeler que c'est la culture américaine des années 60, donc qui est sexiste, et en plus, beaucoup ont grandi dans une culture portoricaine machiste, où le culture vraiment ultra patriarcale, quoi. Et donc, où c'est courant que les hommes tapent, enfin, c'est accepté que les hommes tapent les femmes, c'est accepté que les hommes peuvent avoir une épouse et l'équivalent d'une femme entretenue qui s'appelle la corteja, c'est une coutume qui est complètement acceptée. Et donc, les jeunes femmes qui, enfin une bonne partie en tout cas de celles qui rejoignent les Lords, elles viennent de cette, elles ont grandi dans cette culture-là. Et beaucoup le disent, qu'elles rejoignent aussi les Lords parce qu'elles veulent pas vivre la vie qu'ont vécu leur mère, quoi.
Denise Oliver. Dans le mouvement des femmes blanches, beaucoup avaient une position séparatiste ou petite bourgeoise et disaient « Les femmes sont opprimées parce qu'elles doivent rester à la maison et ne peuvent pas travailler. Mais nous venions d'une communauté pauvre où les femmes ont, pour la plupart, toujours travaillé. En matière de privilèges et de classe, nous occupions des positions très différentes. »
Dans ce groupe non mixte, elles vont à la fois parler pour faire émerger les questions de sexisme du parti, pour le constituer en fait en un objet, un problème, quelque chose qu'elles veulent changer. Et elles en servent aussi pour que ce soit un espace de formation pour les plus jeunes, pour les moins expérimentés. Par exemple, donc, celles qui ont déjà de l'expérience, c'est ce que Denise Oliver raconte, on apprenait aux plus jeunes, aux moins expérimentés, à prendre la parole en public, à oser s'exprimer. Il y a un journal aussi dans le parti qui s'appelle Palante, et elles imposent l'idée que la moitié au moins des articles devraient être écrits par des femmes. Même si elles disent qu'elles n'y arriveront pas forcément, mais au moins la moitié des articles parlent de sujets qui ont trait aux femmes, aux luttes des femmes, etc. Donc au bout d'un an, elles arrivent à ce qu'une femme rejoigne le comité central, donc Denise Oliver, et elles font aussi modifier, parce qu'au tout début, le parti, il y a un programme en 10 points. Alors c'est le point 10, nous voulons l'égalité pour les femmes, le machisme doit être révolutionnaire, pas oppressif. Voilà, donc là, à chaque fois, les meufs étaient « mais n'importe quoi, ça n'existe pas, le machisme, c'est un oxymore, c'est complètement con ». Et en même temps, Pablo Guzmán, que j'ai interviewé, donc, qui était un des membres du comité, du comité central, un des fondateurs, et, c'est lui qui a écrit le programme, et il m'avait dit « en fait, ce que j'entendais par là, c'était que dans un contexte bien particulier, qui est celui de la colonisation de Porto Rico par diverses puissances, l'Espagne puis les États-Unis », dans ce contexte-là, avec la dévirilisation qui accompagne la colonisation, pour les hommes portoricains colonisés, le machisme, ça pouvait être un espace de résistance. Ça pouvait représenter, pour ces hommes-là, une façon de refuser l'image d'hommes soumis qui leur était renvoyée, quoi. Et je trouve que c'est intéressant quand même de préciser ça, parce que pour comprendre ce qu'il y avait derrière cette formulation-là. Mais en tout cas, elles font modifier ce point-là du programme. Et ensuite, elles vont imposer plein de pratiques d'égalité, le fait que tous les trucs de santé, toutes les tâches qui tiennent au care, en gros, les petits déjeuners, les trucs de santé, la distribution de vêtements, etc., tout doit être fait et par les hommes et par les femmes, et dans l'autre sens aussi, c'est-à-dire que les femmes rejoignent le ministère de la Défense, qui est le département, entre guillemets, du parti chargé d'assurer la sécurité des membres dirigeants. Il y a aussi de l'éducation politique. Et il y a, le dernier point, c'est une politique sexuelle très stricte. Les membres des Young Lords n'ont pas le droit d'avoir des relations amoureuses ou sexuelles hors du parti. L'idée étant que c'est pour se protéger des infiltrations. En gros, du COINTELPRO, le programme du FBI chargé d'infiltrer et de défoncer les mouvements d'extrême gauche de l'époque. Et donc, ça va donner aussi une sorte de pouvoir aux femmes du parti face au comportement des hommes, parce qu'elles sont quand même beaucoup à dire que finalement le double standard demeure malgré ces règles-là. Ce qui est certain, c'est qu'il y a vraiment ce truc où les femmes, en fait, disciplinent les hommes au nom de la règle du parti pour leurs écarts de conduite. Et ça va même mener à un moment, donc le président du parti au début, qui s'appelle Felipe Luciano, est marié avec Iris Morales. Et il la trompe. Et en fait, cette question privée devient un problème politique, puisque du coup, c'est posé au sein du parti comme un problème politique. Iris, en gros, l'accuse d'avoir enfreint la discipline du parti. Là, il y a un peu de plusieurs camps qui se forment entre les gens qui estiment, plutôt des hommes, que c'est une question privée, et ceux, plutôt celles, qui avec Iris Morales, estiment que c'est une rupture, en fait, des règles qui se sont données... collectivement au sein du parti. C'est vraiment cette question-là de l'adultère et de ce que ça implique plutôt d'une perpétuation d'un comportement sexiste, tel que les Young Lords le cadrent en tout cas à ce moment-là. Donc Felipe Luciano n'est plus président du parti, il perd son rang. Et puis il y a quand même un épisode aussi qui est assez fou, qui est l'épisode de la grève du sexe. En gros, c'est Denise Oliver qui me racontait ça, qui me dit la première année, donc avant qu'il y ait des femmes au comité central, elle raconte qu'un jour elle est conviée à accompagner les hommes, parce qu'elle est à ce moment-là, elle est officer of the day, ce qui est en gros, la personne qui assigne à chacun les tâches en début de journée, etc. Donc elle a quand même déjà un rôle important. Et donc elle accompagne le comité central à un rendez-vous chez un nationaliste culturaliste noir. Et donc ils arrivent au lieu de la réunion, et là, Denise Oliver, elle dit, mais elle voit des femmes agenouillées avec des pagnes, des corbeilles de fruits sur la tête, dans une espèce de vision complètement fantasmée de l'Afrique. Donc elle raconte qu'elle quitte la réunion, ce pourquoi elle est sanctionnée, parce qu'il y a quand même un régime de sanctions et de règles qui est assez fort dans le parti, quoi. Et donc, du coup, Denise Oliver rentre, réunit le caucus des femmes, leur dit « Ok, voilà ce qui nous attend. Qu'est-ce que vous en pensez ?» Évidemment, toutes les femmes font jamais de la vie, mais jamais de la vie. Et donc là, elles entrent dans un conflit ouvert avec les hommes qui se passe pas mal par les sanctions physiques. Les hommes leur donnent des abdos à faire, des trucs et tout. Donc en fait, un truc qui est quand même en plus en vrai, de ce qu'elle décrit, un peu border sur des questions de violence. Enfin, ils les tapent pas, mais ils leur donnent des coups dans les abdos un peu forts pour les faire plier, quoi. Et elles tiennent bon, et elles ont l'idée, en fait... Je ne sais plus si l'une d'entre elles lit la comédie d'Aristophane, Lysistrata, qui raconte la grève du sexe des femmes d'une cité grecque, justement pour faire arrêter la guerre. Et donc, elles ont l'idée d'appliquer la même stratégie. C'est à la fois drôle et en même temps, ça montre qu'elles arrivent aussi à tourner cette politique de l'intimité dans un contexte machiste en quelque chose qui leur donne du pouvoir, quoi, au sein du parti. Et un troisième pan qui découle aussi de ces groupes de paroles, et que moi j'ai trouvé pas particulièrement intéressant aussi, c'était celui des hommes, quoi. Le groupe de paroles des hommes, où ils entament la question, ce qu'on dirait aujourd'hui, de déconstruction de la masculinité, en fait. Où ils abordent en commun la question de qu'est-ce qui constitue leur identité masculine, en quoi elle est problématique, en quoi il faut qu'ils changent leur rapport aux femmes, en quoi le machismo c'est une idéologie qui les affaiblit. Effectivement, il y a vraiment cette idée de revolution within the revolution, l'idée qu'ils ne peuvent pas être révolutionnaires sans changer en eux-mêmes les traces laissées par le pouvoir, en gros, quoi.
Colonisée désigne l'intériorisation de l'infériorité sans cesse ressentie dans un système raciste et les comportements et attitudes qui en découlent, passivité, servilité, manque de confiance en soi. Les actions des lords visent à lutter contre cette mentalité colonisée en projetant une image de force et en offrant l'occasion aux jeunes membres de s'éprouver dans l'action. Mais c'est sur la question de la race et du racisme que cette lutte se révèle la plus urgente et la plus douloureuse. Denise Oliver, nous expliquions aux nouveaux membres, il y a une raison pour laquelle les gens de ta famille sont tous de couleurs différentes. Il y a une raison pour laquelle les gens disent « épouse un blanc » pour continuer de la blanchir, justement. Il y a une raison pour laquelle les gens appellent les cheveux crépus « pelo malo » les mauvais cheveux, et les cheveux lisses et droits comme ceux des Taïnos « pelo muerte » les cheveux morts. Pourquoi les deux sont mal vus et que les seuls cheveux qui sont considérés corrects sont les cheveux européens « Pelo con ondas », les cheveux ondulés. Nous insistions beaucoup pour dire que nous venions d'une culture afro-taïno, parce qu'il y avait encore beaucoup de déni là-dessus, sur l'existence d'une culture africaine chez les portoricains. David Pérez. N'ayons pas peur de faire notre autocritique sur le racisme. Nous sommes tous racistes, pas parce que nous voulons l'être, mais parce qu'on nous a appris à l'être pour perpétuer les divisions entre nous, parce que cela profite au système capitaliste. Cela s'applique au racisme envers les Asiatiques, les autres bruns, et envers les Blancs. Les Blancs ne sont pas des oppresseurs, ce sont les capitalistes qui le sont. Le socialisme n'adviendra pas tant que nous ne serons pas libérés de ces chaînes mentales. Raffaella Colonne. Les Young Lords m'ont ouvert les yeux, rendu fier de ma culture. Je ne crois pas que j'aurais pu découvrir ça en allant dans une école catholique blanche ou avec mes parents qui étaient des gens très simples et essayaient juste de survivre. La paz.
Porto Rico, c'est une île qui a connu énormément de diverses vagues d'occupation, de migration forcée, d'esclaves noirs d'Afrique, etc. Donc, c'est une société extrêmement métissée.
Lilith Martin et les autres, en entretien avec Claire Richard, autrice du livre Young Lords, histoire des Black Panthers latinos.
Qui vit aussi à cette époque, comme d'autres sociétés des Antilles qui ont des histoires un peu similaires, un racisme très fort selon les échelles de couleur de peau. Plus la peau est blanche, plus la valeur est élevée. Et donc ça, c'est aussi quelque chose dont ils parlent beaucoup au sein du mouvement.
Oui, d'ailleurs, à la fin, quand Denise Oliver et d'autres vont aussi se rendre à Porto Rico, c'est un peu un choc aussi pour eux, quoi. Parce que finalement, ils vont vivre là-bas aussi du racisme, quoi.
Donc effectivement, ils s'y rendent pour étudier l'opportunité d'ouvrir une branche à Porto Rico même. Et Denise Oliver, quand elle me le raconte, elle dit qu'effectivement, elle est choquée par le racisme. Denise Oliver, elle a vraiment, sur les photos de l'époque, une grande afro. Elle a la peau assez claire, parce qu'elle pourrait passer pour portoricaine. Mais elle se présente, elle dit non, je suis afro-américaine, etc. Et elle est hyper choquée de voir le racisme, et surtout envers Pablo Guzmán, qui lui a la peau vraiment plus foncée, et qui a aussi une grosse afro. Et elle dit mais le racisme était hallucinant. Moi, je suis revenue en me disant jamais de la vie, on n'y va pas, ils sont encore plus arriérés que les États-Unis sur les questions raciales et tout ça. Mais Pablo Guzmán, lui, il dit moi, j'ai grandi dans une famille afro-cubaine, alors je crois que c'est son père ou sa mère, je sais plus lequel des deux avait la peau très noire, mais en gros, il dit j'ai toujours su que ça existait dans cette culture, j'ai pas eu d'épiphanie sur le racisme à Porto Rico parce que, en gros, parce qu'il dit mais parce que moi, je l'avais toujours vécu. Donc c'est intéressant aussi de voir que leur perception du racisme à Porto Rico, elle coïncide sur les observations et les faits, mais ils ne l'interprètent pas nécessairement de la même façon. Et donc la question nationaliste, c'est-à-dire la lutte pour l'indépendance de Porto Rico, elle arrive dans le chapitre 4, je crois, donc vachement après les autres questions. Alors que pour eux, c'est pas du tout... c'est premier, quoi. J'ai même posé, justement, quand j'étais un peu sur la fin, la dernière interview que j'ai faite avec Pablo Guzmán, je leur ai dit, mais bon... Vous, du coup, si vous deviez arbitrer entre la lutte pour l'indépendance de Porto Rico ou les actions communautaires, c'était quoi le plus important ? C'est pas nous, on dissociait jamais les deux, mais à choisir, ça aurait été la lutte pour l'indépendance portoricaine. Donc, il y a ça aussi, c'est que ma subjectivité, là, elle existe dans les choses que j'ai mises en valeur, et puis le fait de faire passer cette question nationaliste au second plan, alors que pour eux, ils dissocient pas ces deux questions parce que dans leur tête, en fait, les Portoricains sont si maltraités. Enfin, ils ont une situation de peuple colonisé aux États-Unis. Et c'est aussi un terme qu'on retrouve chez les Black Panthers. Les Noirs sont une colonie aux États-Unis, les Portoricains sont une colonie aux États-Unis. Et donc, en fait, les deux questions sont les mêmes, quoi. Lutter pour l'indépendance de Porto Rico et lutter pour de meilleures conditions de vie des Portoricains sur le sol américain, ce qu'ils appellent le mainland, c'est la même chose, quoi. Parce que c'est vraiment des actions très très locales, et ça qui fait leur force, c'est qu'ils sont dans un quartier qu'ils connaissent, dont beaucoup sont originaires. Ils racontent, enfin vraiment, leur vie quotidienne, c'est presque un centre social, quoi. En fait, ils sont là, il y a plein de gens qui passent leur demander des services, des conseils, des réflexions politiques ou des choses extrêmement concrètes. Et c'est ça qui marche. Et ils disent, nous, on voulait pas du tout être justement des idéologues, on voulait être hyper pragmatiques et répondre aux besoins très concrets du peuple. De notre peuple. Parce qu'ils utilisent vachement ce terme « our people, the people ». Parallèlement à ça, par contre, il y a un idéalisme très fort autour de l'indépendance de Porto Rico, parce que donc c'est à la fois une lutte réelle qui est menée par plein de gens, ils sont pas du tout les seuls. Mm-hmm. À Porto Rico, c'est un mouvement qui existe depuis un siècle, et puis à New York, il y a aussi d'autres groupes portoricains. La plupart, en fait, n'ont pas du tout vécu à Porto Rico, ou alors quelques années de leur vie avant de grandir aux États-Unis. C'est vraiment des produits de la côte Est. Et Porto Rico, ça occupe une place très particulière dans leur imaginaire. C'est à la fois le lieu qui politiquement cristallise tous les espoirs, l'espèce de grande lutte épique pour la libération du pays. Et puis aussi, c'est des souvenirs souvent d'enfance, de vacances, d'une espèce de paradis perdu, quoi. Quand ils commencent à se concentrer sur la question de la libération de Porto Rico, et qu'ils envoient... ils décident d'ouvrir un chapitre ou deux sur l'île même, ben là, ça foire complètement, parce que c'est un changement de stratégie par rapport à toutes les actions extrêmement locales qu'ils ont pu faire jusqu'alors. Mmh. Et ils sont sur un terrain qu'ils connaissent pas. Ouais. Ils connaissent genre vraiment pas du tout, en fait, ou très peu. Et ça se passe très très mal, parce qu'ils ont été naïfs. C'est vraiment une sorte d'erreur stratégique.
Iris Morales. À New York, pendant ma dernière année de l'organisation, il n'y avait plus que de rares activités dans la communauté. Mais plus de programmes pour servir le peuple, plus de dépistage en porte-à-porte, plus de cours pour la communauté, plus d'union des femmes. La plupart des membres du comité central étaient partis. Il ne restait plus beaucoup de membres. Quelques militants avaient été abandonnés dans des usines ou sur d'autres lieux de travail. La passion, l'engagement et le travail acharné des Young Lords avaient laissé place au pinaillage idéologique. J'étais complètement démoralisée. L'organisation que j'avais rejointe 5 ans plus tôt était morte.
Alors sur la question de l'autocritique, je dirais pas que j'étais surprise, mais par contre c'est quelque chose, c'était en partie pour ça que j'ai voulu, que ça m'a à ce point intéressée. C'est que je trouvais que c'était que le fait qu'ils aient un discours critique sur ce qu'ils avaient fait, les choses qui n'avaient pas marché et les limites qu'ils avaient, ça rendait le truc beaucoup plus instructif. Moi je suis pas militante, mais je suis toujours en bordure de plein de choses militantes. Mais j'ai pas une vie de militante. Moi, ce qui m'intéresse depuis ma position à moi, qui est plutôt celle d'écrire ou de faire des documentaires, tout ça, c'est de créer des choses, enfin en tout cas c'est ce que j'essaye de faire, tu vois, qui puissent inspirer les gens qui eux-mêmes font vraiment des actions, agissent, quoi, parce que moi c'est pas ma place. En tout cas, moi, ma raison, je suis toujours très frustrée quand je lis des histoires militantes ou des histoires de groupes et tout, qui manquent des choses sur genre, mais c'était quoi vos finances? À quoi ça ressemblait une vie quotidienne? Comment les gens faisaient? C'est fatigant, le militantisme, ça coûte de l'argent, c'est de l'énergie. Comment les gens vivent avec ça? Et du coup, le fait qu'ils soient aussi... qu'ils aient une forme d'humilité, parce que ça n'a pas non plus l'ampleur ou le succès des Black Panthers, par exemple. Donc je pense que ça explique aussi... En fait, ça me semblait... Du coup, je me disais, mais le discours qu'ils ont, qui est vachement libre sur cette action-là, ça va être plus à même d'être intéressant pour des gens qui agissent aujourd'hui, quoi. Ma théorie, c'est quand même, enfin, c'est pas que la mienne d'ailleurs, mais qu'on fait de politique que parce que t'es habité par des affects, il y a des choses qui te poussent et que c'est des choses concrètes, genre la lutte contre les injustices, les violences et tout, mais c'est aussi des imaginaires que t'as, des choses vers lesquelles tu tends, de visions de gens, tu vois, de formes de vie vers lesquelles qui t'inspirent ou auxquelles tu voudrais ressembler ou voilà. Et je me disais que, enfin voilà, ce que j'avais envie aussi avec cette histoire là c'est de proposer de contribuer à ces élans là quoi. C'est assez admirable quand même, et en même temps c'est admirable et en même temps c'est très accessible en fait ce qu'ils font. Justement, c'est l'idée, c'est pas de créer un mythe de la révolution. Et justement, Denise Oliver, c'était fantastique parce qu'elle disait vachement, une fois sur deux on savait pas ce qu'on faisait. Je crois que c'est ce que j'avais mis en dernière citation parce que je trouvais ça hyper fort de dire, enfin hyper fort, important, de dire en fait, l'action politique ça se fait aussi en tâtonnant quoi. Et ils n'avaient pas nécessairement une théorie hyper carrée ou un grand plan d'action. Mais ils ont quand même réussi à faire plein de trucs.
That 5 people can get together in an apartment or on a campus and decide to start a movement that can change the world. And you don't have to be, you know, funded to do it. You don't have to go take a course on how to do it. You know, you just have to have the commitment and the desire for change, and it can happen.
Denise was the highest ranking woman at the time. But like many women who were active in the Young Lords, she felt frustrated by the sexism within it.
Je suis allée la voir dans sa maison, donc upstate New York. J'avais pris un bus, machin, et en fait, elle m'a vraiment extrêmement impressionnée d'emblée, parce qu'en fait, elle avait quelque chose d'extrêmement direct et super cash. Et on est allé dans sa maison, qui était une espèce de foutoir pas possible, quoi, une sorte de grande maison en bois au bord de la route. Elle a un chien, donc on arrive là, une sorte de vieille bagnole toute pourrie. Puis elle fumait des clopes à la chaîne, quoi, alors qu'aux États-Unis vraiment il y a moins de fumeurs qu'ici. Déjà aujourd'hui c'est de moins en moins fréquent les gens qui enchaînent les clopes, mais alors aux États-Unis encore plus. Et on arrive, donc on descend de sa petite bagnole pourrie, il y a un chien qui arrive, elle fait non, t'inquiète pas, il mord que les hommes, he only bites men. Et en fait on a parlé très longtemps, et c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment le point de vue féministe qui fait un peu contrepoint justement en mode no bullshit au discours, en tout cas écrit, de certains hommes de l'époque. En parlant plus généralement par exemple de comment à l'arrivée dans les Young Lords, justement quand le comité central lui dit qu'elle pourrait prendre les rapports à la machine et tout. Genre moi je leur ai dit que je savais pas taper la machine parce qu'il était hors de question. Ma mère m'avait toujours dit tu pourras faire ce que tu veux mais tu seras pas secrétaire, machin. Et en fait elle avait toujours des espèces de petites remarques comme ça. À un moment elle était là, non mais de toute façon chez moi c'est le bordel. I told my husband, is the one who does all the cleaning, who does all the laundry. I told him like I don't do the dishes and I don't do floors. Ouais, mais bien sûr. En plus, elle avait une sorte de rythme comme ça, assez, assez génial. Et ouais, et elle a juste une vie hallucinante. À partir du moment où il décide de s'installer à Puerto Rico parce qu'elle n'est pas d'accord et qu'elle pense que c'est une connerie stratégique et tout, elle rejoint les Black Panthers, elle rejoint Cleaver à Alger, donc qui a fait une espèce de gouvernement des Black Panthers en exil. Et ensuite, elle fait toute une tournée avec Cleaver et d'autres, de plein de pays africains, parce que c'est vraiment juste après les indépendances. Après, elle revient aux États-Unis, elle est recherchée par la police pour une raison qu'elle a refusé de me dire précisément. Donc du coup, elle passe un an en underground, là, ouais, voilà, en clandestinité. Elle dit qu'elle s'était rasée la tête et qu'elle était dans les barguets planqués à Greenwich Village. Parce qu'en fait, jamais les flics seraient venus me chercher là-bas. Je connaissais plein de gens là-bas, de diverses luttes, machin. Donc elle fait le barman pendant un an avec la tête rasée. Ensuite, elle reprend diverses activités, toujours autour des trucs de communauté. Et dans les années 80, elle est vachement investie sur les questions de lutte contre le VIH qui arrive. Ouais, non, elle était vraiment hyper impressionnante.
Ok.
Mais vraiment, et là, je lui ai envoyé, mais elle m'a pas répondu encore, je lui ai envoyé le bouquin avec une sorte de dédicace à l'intérieur où j'ai vraiment l'air d'une groupie. Limite, je suis là, genre, non, mais it was very important to me, meeting you. Et alors qu'on s'est pas non plus vu un nombre de fois infini, mais elle m'a vraiment beaucoup, beaucoup impressionnée. Aussi autant parler parce que je suis française et que du coup le bouquin il sort en France et qu'il est pas il n'empiète pas sur leur territoire entre guillemets, enfin les questions d'appropriation. C'est en écrivant que je me suis rendu compte qu'il y avait un problème, parce que j'avais l'impression que soit j'écrivais à la troisième personne un truc assez neutre mais qui me semblait pas du tout rendre justice à la vigueur, l'espèce de truc hyper vivant, ce qui moi m'avait intéressé dans leurs actions. Mais du coup l'autre option c'était de raconter un peu en mode certains reportages, un peu comme si vous y étiez, quoi. Je veux dire, et là, au coin de la rue, une sirène se fait entendre, point, c'est la police, point. Et en fait, je me disais, mais ça c'est malhonnête, parce que ça fait comme si moi j'y avais été, et de fait, pas du tout. Et en fait, c'était un vrai problème, parce que c'était chiant à écrire, du coup je me disais que ça allait être chiant à lire, et vraiment, pendant quelques temps, je me suis dit, merde, c'est vraiment dommage, j'ai tellement de trucs passionnants, et ça va être super chiant. Et en fait, c'est un peu par hasard, parce que je lisais, à ce moment-là, j'ai commencé à relire un bouquin qui s'appelle Please Kill Me, qui est une histoire orale du punk. Qui est vachement bien, qui est assez radical parce qu'il n'y a pas du tout de contexte, il n'y a vraiment rien, c'est que des entretiens montés sur la scène punk des années 70 aux États-Unis. Et c'est assez compliqué parce qu'il y a plein de trucs qu'on ne comprend pas du tout, on comprend bien qui sont les gens, mais ça donne vachement le sentiment de la confusion du réel. Et je me suis dit, ah mais banco, c'est ça qu'il faut faire, un truc un peu comme ça. Mmh. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à bosser. Et par ailleurs, je fais pas mal de radio, de montage son, et du coup je suis vachement habituée à cette forme-là. Et que j'aime beaucoup. Et du coup, il y avait ça, en fait. Je me suis dit qu'il fallait faire l'équivalent d'un... Enfin, comme si c'était un montage... Du coup, c'était pas si compliqué que ça à agencer. Après, il y a eu deux questions. C'est que j'ai quand même pas interviewé du tout tous les Young Lords. Donc, il y a aussi plein d'autres sources qui sont des entretiens que j'ai trouvés ailleurs. Et aussi des textes qu'ils ont écrits en 70-71. Qui sont hyper, que j'aime beaucoup, où ils parlent de leur pratique. J'utilise aussi quelques articles du New York Times pour faire un peu, et du Village Voice, pour montrer la perspective. Donc c'est à la fois un truc narratif, parce que ça permet de, tu vois, il y a quelques moments où il manquait quelqu'un qui dit, et là on est arrivé, je sais pas, à la mairie. Et du coup, ça c'était pratique de prendre deux phrases d'un article du New York Times qui dit ça, parce que t'as un lien. J'avais l'impression que cette histoire des Lords, elle rejoignait d'autres questions que je me pose, qui sont... des questions de forme aussi, des questions esthétiques. Et donc là, soudain, comme il y avait cette question de la forme qui était nouvelle pour moi, c'était excitant d'écrire le bouquin.